Première Épître à Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or ou de perles ou d'habits somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant, si elle persévère dans la foi, et l'amour, et la sainteté, avec modestie.
La dernière fois, nous avions terminé le premier chapitre que je vais essayer de résumer pour nous faire entrer dans le chapitre 2. Dans le premier chapitre, nous avons vu Paul rappeler à Timothée qu'il doit ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner de doctrine étrangère. Et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables. Verset 4. Nous avons vu que ceux qui enseignent ces choses se méprennent sur la fonction de la loi pour notre temps actuel. Cette loi, bonne en elle-même, est pour les pécheurs et non pour le juste. Sa fonction est d'attester ce qui est dans le cœur de l'homme et de toucher sa conscience. Elle ne donne aucune force pour approcher l'homme de Dieu. L'apôtre présente en contraste le but de l'ordonnance qu'il a donnée à Timothée. C'est l'amour qui devait habiter en lui, comme dans tous les saints. Ce véritable amour procède des trois caractères du verset 5. Le cœur pur. Et nous voyons que, plus loin, que Paul n'avait pas eu du tout cela avant sa conversion, car il était persécuteur. Une bonne conscience, ce que Paul, encore une fois, n'avait pas eu, parce qu'il était blasphémateur. Et une foi sincère, ce que Paul, encore, n'avait pas eu du tout, il était outrageux. Mais, dit-il, miséricorde m'a été faite. Lui, le plus grand des pécheurs, il a été l'objet de toute la patience de Dieu, pour qu'il devienne un exemple, pour que tous puissent croire que le Christ Jésus est venu dans le monde sauver le plus grand même des pécheurs. La fin du chapitre 1er introduit les instructions pratiques données au chapitre 2. Comme Timothée, nous pouvons entrer dans ces instructions sur la base de la soumission produite par la grâce et non à cause d'une loi. Avec cette foi et cette bonne conscience, dans le jugement de nous-mêmes, nous pouvons nous attacher aux vérités que nous recevons dans nos âmes de la part de Dieu.
Un rappel par rapport à la première épître à Timothée. Donc le premier chapitre, nous avons vu quel est le but de la mission que l'apôtre Paul confie à Timothée. C'est que les saints soient dans un bon état spirituel et qu'ils marchent ainsi dans un bon ordre pour l'assemblée de Dieu. Le grand sujet de la première épître à Timothée, c'est la manière de se conduire et la bonne manière de se conduire dans la maison de Dieu. Et dans le résumé qui vient d'être fait, nous voyons que on peut extraire ce verset 5 du premier chapitre. Et nous voyons que pour qu'il y ait ce bon ordre dans l'assemblée, il faut que nous ayons chacun un bon état spirituel. Et ce bon état spirituel se résume à trois choses: le cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et ce bon état spirituel pour chacun de nous dans la maison de Dieu est produit comment? Eh bien, il est produit par un bon enseignement, un saint enseignement, par la vérité qui seule conduit à une bonne marche devant Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous met en garde sur les doctrines erronées, sur les doctrines étrangères, la méconnaissance de ce qu'est la loi par rapport à la grâce. Et donc il est insisté dans la première épître à Timothée sur la saine doctrine qui est nommée sept fois dans cette épître. Dans cette épître, nous savons, et nous l'avions aussi souligné dans ce premier chapitre, que Dieu se présente comme le Dieu sauveur. Du temps d'Israël et de la loi, Dieu se présentait comme le Dieu législateur, celui qui avait donné la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce et nous avons affaire à un Dieu sauveur. Et nous allons le voir, s'il plaît à Dieu, dans ce deuxième chapitre de la première épître à Timothée. Nous avons donc ce premier caractère de Dieu comme Dieu sauveur. Ce Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le deuxième caractère de Dieu que nous trouvons dans ce deuxième chapitre, c'est le Dieu créateur. Et nous voyons à travers les exhortations de l'apôtre Paul qu'il y a un ordre dans la création. C'est-à-dire, l'homme a d'abord été créé et ensuite la femme. Et donc, dans ce chapitre, pour qu'il y ait un bon ordre dans l'assemblée de Dieu, il faut que cet ordre aussi de la création soit maintenu, soit connu et maintenu, c'est-à-dire que l'homme ait sa place et que la femme ait aussi sa place qui est différente. si nous perdons de vue ce caractère de Dieu créateur, eh bien, il y aura évidemment des conséquences, mais des conséquences néfastes. Donc nous lisons au premier verset du chapitre 2, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul nous présente la maison de Dieu, l'assemblée, la maison de Dieu, comme une maison de prière. Et cela nous renvoie au prophète Ésaïe, si nous pouvons lire dans le chapitre 56 d'Ésaïe. Verset 7, à la fin, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » La première exhortation de l'apôtre Paul, pour ainsi dire, pour la vie collective, pour la vie de l'Assemblée, afin qu'il y ait un bon ordre dans l'Assemblée, eh bien, il place devant les saints la prière. Et nous savons que la prière est une exhortation de la plus haute importance, et spécialement de la prière collective. Cela nous est c'est difficile à dire, mais il semble que les mots employés par l'apôtre Paul sont à la fois la prière individuelle, la prière de famille et aussi la prière collective en assemblée. Et Paul met ce sujet en première place. Et comme il est dit, c'est avant toute chose. Et c'est une exhortation qui devrait toucher nos cœurs et nos consciences. C'est quelle place a la prière dans nos vies, dans notre vie personnelle, dans la vie familiale et dans la vie de l'Assemblée, dans la vie collective. Et nous pouvons comprendre aussi que nous ne devons pas considérer la réunion de prière comme une réunion de moindre importance, bien au contraire, mais c'est une réunion d'assemblée. Et si nous lisons attentivement dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, nous y voyons que dans l'Église primitive, après la descente du Saint-Esprit, les réunions d'assemblée pour la prière, nous voyons qu'il y avait cet attachement de nos frères et sœurs, des premiers croyants, pour ces réunions d'assemblée. On a dit aussi que la réunion de prière et sa fréquentation étaient un signe de la spiritualité d'une assemblée. Et pouvons peut-être relater un fait qu'un évangéliste du temps passé soulignait. Il s'agissait de Charles Spurgeon. Eh bien, c'était un évangéliste remarquable du temps du réveil. Eh bien, il y avait de nombreuses conversions et c'était un évangéliste hors pair qui présentait l'évangile dans toute sa puissance et dans toute sa force. Il y avait d'innombrables conversions dans ces réunions. Et il y a des frères qui sont allés lui poser la question pourquoi il avait un tel succès et l'évangile avait une telle puissance quand il l'annonçait. Et il avait répondu à ses interlocuteurs qu'avant ces réunions d'évangélisation, bien l'assemblée se réunissait dans des réunions de prière spéciales et plusieurs fois. Et donc il disait que ces réunions d'assemblée étaient la salle de chauffe avant ces réunions d'évangélisation. Et il disait qu'au fond, la puissance qui était manifestée dans ces réunions d'évangélisation venait du fait des prières, des supplications, des intercessions qui montaient vers Dieu de la part de l'Assemblée à ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Seigneur Jésus cite ce verset de Ésaïe 56, verset 7. Nous le trouvons en Matthieu 21, verset 13. La prière de l'assemblée, c'est la respiration de l'âme, comme disait un frère, et le poumon de l'assemblée. Combien la prière est importante. S'il n'y a pas de vraie réunion de prière, il n'est pas non plus bon que le culte sera un culte élevé. Mais c'est toujours par la prière que nous sommes devant Dieu et nous savons que, comme le Seigneur le disait, il est écrit que l'assemblée est la maison de Dieu et la réunion de prière.
Avant toute chose, comme Michel l'a relevé, avant toute chose, et ça peut se comprendre très bien pourquoi. Pour venir devant Dieu, la première chose, c'est de prendre notre place. Et notre place, c'est à la fois en tant que créature et en tant que racheté. C'est une place qui est dans l'humilité et dans la pleine conscience et la jouissance de la grâce de Dieu. Et la première chose que nous pouvons faire devant Dieu, ce n'est pas forcément les actions de grâce. Elles apparaissent là, mais ce n'est pas forcément les actions de grâce. D'abord, il y a tout ce qui est de ce que nous sommes, que nous devons reconnaître, manifester. Et nous sommes dépendants. La prière parle de dépendance. La première chose, c'est cette dépendance. Prier, c'est extérioriser devant Dieu que nous dépendons en tout de lui. Le point de départ de notre marche, notre salut. Ce salut qui n'est pas juste si je peux dire, un salut, mais en plus cette place où il nous a mis, enfants de Dieu. Voilà. Tout dépend, vient de lui, et la prière exprime cette dépendance. Et puis alors, ce qui est frappant dans ce verset, c'est l'énumération. C'est pas juste, j'exhorte avant toute chose à ce qu'on prie. C'est plus riche que cela. Qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce. Selon les traductions, on va pouvoir trouver des mots un peu différents. On peut vouloir dire ce que c'est une supplication, une prière, une intercession, rentrer dans du détail, ça a un sens, mais en même temps, il ne faut pas non plus s'arrêter à ces sens détaillés. Ce qui ressort surtout, c'est que nous venons dans la prière pour une variété d'objets et sur une variété de manières. Et il nous suffit de parcourir la parole pour voir toutes les manières dont des hommes de foi, des femmes de foi, on peut prier. Ça peut aller d'une prière, la dernière chose qui nous est donnée, des actions de grâce, remercier Dieu pour quelque chose, mais pourquoi ? Pour une réponse à une autre prière, à une supplication qu'on a fait avant. Je pense à l'exemple de Anne, hein, Samuel. Elle a répandu son cœur devant Dieu, sa tristesse, sa douleur. Voilà une première forme de prière. Puis elle a demandé quelque chose. Puis elle s'est engagée, si tu me donnes cela, alors. Et puis quand elle l'a reçu, elle a rendu grâce. On a un bel exemple là dans Anne de ce qu'on parcourt là, supplication, prière, intercession, action de grâce. Et puis la fin du verset précise, pour tous les hommes, pas que pour nous. Nos prières et nos réunions de prière sont bien souvent dominées par le jeu moi, nous. Et notre vision dans la prière est parfois, bien souvent, très étroite et limitée à notre petit horizon, pour tous les hommes.
Dans la parole de Dieu, nous sommes encouragés à nous approcher de Dieu, à être dans sa sainte présence ou dans sa présence immédiate comme des sacrificateurs. Et il y a deux façons de nous approcher de Dieu. C'est en le priant et en le louant. Et dans 1 Timothée 2, nous voyons la première de ces activités. Et comme Robert l'a souligné, en particulier dans Marc 11, il nous est dit, donc le Seigneur, ses propres paroles, que la maison de Dieu est une maison de prière. Et donc dans 1 Timothée 2, nous voyons que la prière qui doit, ou les prières qui doivent être formulées dans la présence de Dieu sont d'abord pour faire avancer sa grande cause dans le monde, c'est-à-dire annoncer l'Évangile. Et ainsi, Dieu désire que son caractère de Dieu sauveur soit connu dans le monde entier. Ensuite, dans notre passage, nous voyons que les prières, on pourra peut-être donner quand même la différence entre une supplication, une prière, une intercession et une action de grâce, mais les prières doivent être formulées à l'égard de deux domaines principaux. Il nous est dit que le premier domaine, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Et le deuxième domaine, c'est pour ceux qui sont hors de la maison, qui ne sont pas encore sauvés. Et la nécessité est de prier pour les autorités afin qu'elles permettent à ceux qui sont dans la maison d'avoir une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous devons nous souvenir que la première épître à Timothée a été écrite par l'apôtre Paul du temps de Néron, l'empereur cruel et sanguinaire et qui persécutait les chrétiens. Et donc nous comprenons bien que pour l'apôtre, c'était une question de toute importance de prier pour les autorités afin que les croyants, donc ceux de la maison, aient une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté.
En considérant justement cette exhortation de l'apôtre Paul à prier pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, on a parlé justement de mener une vie paisible et tranquille. J'aimerais bien que l'on considère cet aspect, Michel a évoqué justement pour que les autorités puissent permettre ou que le Seigneur touche les cœurs du roi comme il sait si bien le faire, pour que les chrétiens puissent mener cette vie. Mais on peut aussi considérer cet autre aspect avec Philippiens chapitre 4. On connaît ces versets, on peut lire à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est ce côté où la paix de Dieu est garantie et donnée à ceux qui, comme on l'a dit dans la prière qui nous met en présence de Dieu, de sa souveraineté, dans sa dépendance, eh bien cette prière donne aussi au cœur de ne pas s'inquiéter par rapport aux circonstances adverses qui ne sont certainement pas tout le temps ôtées ou annulé pour autant quand nous prions, mais déjà nos cœurs peuvent se reposer et se confier pleinement dans notre Dieu, dans notre Sauveur et dans notre Maître, qui est aussi le Maître des temps et des circonstances. Et cette prière, en même temps, nous garde de pensées qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. On le voit pour les autorités, souvent on peut être amené à critiquer, on peut être amené à vouloir juger l'action de ces hommes que Dieu dans sa souveraineté a lui-même élevé. Mais quand nous nous approchons avec la prière, quand nous considérons le service de ces hommes sous le prisme de la prière, on comprend que c'est Dieu qui permet, que ce n'est pas une circonstance fortuite ou un hasard, mais que c'est Dieu qui reste au contrôle et qui est le maître. Et même avec tous les hommes, on peut aussi voir ce même aspect. Nous sommes sujets à... On peut avoir des différends entre hommes ou avoir des opinions qui ne sont pas forcément les mêmes, même dans les assemblées. a quand même plus forte raison encore dans le monde ou dans nos familles. Mais quand nous portons ces hommes en prière, eh bien nous pouvons être gardés des ressentiments, nous pouvons être gardés des pensées de supériorité ou des pensées de colère, parce que justement nous les portons devant notre Dieu et Dieu peut garder justement nos cœurs dans cette paix-là. Donc nous n'avons que du bénéfice à porter tous les hommes dans les prières, parce que justement le Seigneur nous donne alors d'une certaine façon de connaître mieux sa pensée et de mieux la vivre aussi.
L'apôtre nous dit de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que. Il nous met devant nous l'objectif de la prière, afin que nous puissions mener une vie paisible et plus loin, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a deux registres. Celui des siens, des enfants de Dieu, et celui de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, donc que l'évangile puisse être annoncé. Mais il ne nous dit pas ce qu'il faut demander. Et c'est utile à juste s'arrêter sur cette pensée, parce que c'est laissé à notre discernement de ce qu'il convient de demander. Et c'est quelque chose de délicat et de difficile. Et je crois qu'on a quelques éléments qui nous sont donnés dans le livre de Daniel, où en quelque sorte Dieu lève le voile sur ce qui se passe sur une scène que nous ne voyons pas. Je pense par exemple en Daniel 10, où Daniel a donc une vision, et où j'ai lu ce verset 12, « Ne crains pas Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et moi je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours et voici Michaël, un des premiers chefs, vient à mon secours et je reste là auprès des rois de Perse. » Et plus loin au chapitre 10, verset 20, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse. Et quand je sortirai, voici le chef de Javan viendra. » Il y a une scène que nous ne voyons pas, qui est la scène de ce combat entre l'ennemi qui combat toujours contre Dieu, qui veut entraîner avec lui des hommes dans la perdition et qui utilise, entre autres, les autorités qu'il y a sur la terre. Autorité, principe d'autorité donné de Dieu, mais homme, pour ce qu'on peut en voir, pour le plus grand nombre, sans Dieu, et asservi au pouvoir de l'ennemi. Et c'est en ce sens-là qu'il nous faut un discernement que Dieu seul peut nous donner pour savoir dans quelles circonstances que devons-nous demander. Pour ses autorités. Le but, lui, reste toujours le même. Une vie paisible pour les croyants et dans cette atmosphère paisible que l'évangile puisse se propager pour parler aux âmes. Mais quelque part, on retrouve là, dans cette prière-là, le côté du combat de la prière. Combattant pour vous, on a cette expression concernant les Colossiens, c'est un combat pour les croyants et on a ce combat avec Dieu, contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes, Éphésiens 6. Et donc là, des prières pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que. Et c'est peut-être ce qui peut nous aider, c'est toujours ce « afin que ». Quel est le but, quel est l'objectif de telle prière ?
Je veux juste revenir au premier verset par rapport aux différentes prières qui allaient sortir pour juste expliquer. Donc, il y a... On lit donc de quatre différentes sortes de prières. On a donc le deuxième mot prière qui est en généralité le fait de demander quelque chose à Dieu. Les supplications, c'est une demande, on peut dire, plus forte. Les intercessions, c'est prier pour quelqu'un. Et les actions de grâce, c'est rendre grâce, quoi, donc remercier Dieu. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul, souvent, dans ses épîtres, il commence souvent d'abord à rendre grâce et il prie après. Par exemple, dans l'épître aux Romains, au premier chapitre, et au verset 8, Romains 1, verset 8, « Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, dès que votre foi est publiée dans le monde entier. » Et après, on voit au verset 10 qu'il demande toujours dans ses prières. Donc là, on voit par exemple qu'il commence avec... de rendre grâce d'abord. On a ça pareil, par exemple, en 1er épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, « Je rends toujours grâce à mon Dieu. » Aussi, 2e épître aux Corinthiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. » En Philippiens, on a ça aussi, « Je rends grâce à mon Dieu. » Donc, l'apôtre Paul, on a dit tout à l'heure qu'en général, qu'on rend grâce et suite à, par exemple, une réponse à nos prières qu'on a eues, c'est juste. Mais on a aussi, en plus, toujours plein de raisons pour rendre grâce.
Juste une petite digression sur les combats. Il y a effectivement le combat pour l'Évangile. Cela est exprimé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. C'est l'apôtre Paul, après avoir auparavant souffert et avoir été outragé à Philippe, comme vous le savez, nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu avec beaucoup de combats. Le même combat nous retrouvons dans l'épître aux Philippiens, dans le premier chapitre, la fin du verset 27, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile, en n'étant en rien épouvanté par les adversaires. Et nous voyons, en particulier dans ce premier chapitre, à partir du verset 12, où il nous est parlé de l'avancement de l'Évangile. Donc, c'est un combat qui commence sans doute par la prière. Et le premier combat de l'apôtre Paul, c'était l'avancement de l'Évangile. Le deuxième combat de l'apôtre, nous le lisons dans Colossiens 1, c'était un combat pour l'affermissement des saints. C'est chapitre 1, verset 29, sauf erreur. Et nous voyons que c'est un combat aussi dans l'Assemblée de découper droit la vérité, de donner un bon enseignement, un sain enseignement Pourquoi ? C'est pour l'avancement et l'affermissement des saints dans l'assemblée. Dans l'épître de Jude, nous avons aussi un troisième combat qui est sans doute extrêmement actuel. Pouvons lire dans Jude, donc au verset 3. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Donc les croyants aujourd'hui peuvent rencontrer beaucoup de combats. Le premier combat, c'est l'avancement de l'Évangile. Le deuxième combat, c'est l'avancement et l'affermissement des chrétiens dans la vérité, c'est-à-dire faire des progrès spirituels. Et donc, c'est un combat qui est mené dans l'Assemblée. Et aujourd'hui, Jude nous parle, bien sûr, d'un temps d'apostasie, c'est-à-dire ce rejet public qui se trouve de plus en plus dans la chrétienté aujourd'hui, ce rejet de Christ et tout ce qui est lié à la personne du Seigneur Jésus, avec la remise en question de la vérité qui a été une fois enseignée aux saints. Donc la vérité, elle est une, elle est complète. Et un combat actuel et aujourd'hui, et même dans les assemblées, c'est de maintenir la vérité, c'est de prêcher et d'annoncer la vérité, et en prenant garde justement aux erreurs, aux faux enseignements, aux enseignements qui ne conviennent pas dans la présence de Dieu. Et cela nous renvoie bien sûr à la première épître à Timothée dans ce chapitre 2, et c'est sans doute un des points actuels, que la place de l'homme soit reconnue, et ainsi que la place de la femme qui est différente dans l'Assemblée. Encore peut-être un verset dans, je crois que c'est dans Jérémie, si je le retrouve, Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Eh bien, nous sommes dans la ville de Strasbourg, nous avons été tous transportés dans cette ville de Strasbourg. Eh bien, il faut chercher la paix de la ville, c'est-à-dire que la paix soit maintenue dans cette ville. Et comment faire ? C'est par la prière, donc, cette exhortation qui nous est donnée dans la première épître à Timothée dans ce chapitre 2 et au début. Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Si nous sommes en paix ici à Strasbourg et que grâce à Dieu la paix est maintenue dans cette ville, eh bien c'est afin de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Juste une remarque, la piété, c'est notre relation avec Dieu et avec le Seigneur. Donc la priorité, si nous avons une vie paisible et tranquille, c'est de cultiver cette relation avec le Seigneur et avec Dieu. La deuxième partie, c'est en toute honnêteté, en toute piété et honnêteté. Donc, si la piété est en rapport avec Dieu, l'honnêteté est en rapport avec les hommes. C'est-à-dire, ici, dans cette ville, notre relation avec les hommes doit être de toute honnêteté. Et il faut que les croyants aient un témoignage clair dans la ville où ils sont. Et alors, le sens du mot « honnêteté », cela a été relevé. Le traducteur de notre version de la Bible a écrit « honnêteté », mais le sens du mot grec, c'est « gravité » et « dignité ». C'est-à-dire, nous devons avoir une vie digne de Dieu, et en toute gravité. C'est-à-dire, la gravité, c'est pas une gaieté, etc. Nous devons avoir une vie qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire, comme il est dit, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, honnêteté, gravité et dignité. Peut-être encore un mot dans Jérémie. Jérémie 45. Si nous sommes appelés à avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, eh bien, dans Jérémie 45, il nous est dit, verset 5, « Et toi, tu chercherais pour toi de grandes choses, ne les cherche pas. » C'est-à-dire le danger qui peut nous guetter si nous avons une vie paisible et tranquille, eh bien, dans ce monde, nous pouvons chercher de grandes choses. Nous pouvons avoir des ambitions dans ce monde. Et avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, c'est certainement pas avoir des ambitions dans le monde dans lequel nous n'appartenons plus, mais dans lequel nous sommes encore.
Un combat que nous avons à livrer contre les autorités, contre l'artifice du diable, Éphésiens 6, l'armure complète de Dieu, et la dernière armure, c'est la prière. On peut lire Éphésiens 6, le verset 18.
Éphésiens 6, verset 18. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance, et des supplications pour tous les saints et pour moi.
Et puis, encore un verset dans 1 Jean 5, si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, on peut lire aussi 1 Jean 5, versets 14 et 15.
Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées.
prières, il y a les supplications, les intercessions. Et l'apôtre Jacques nous dit qu'en parlant d'Élie, que la supplication du juste peut beaucoup.
Deux.